Ah Jésus, Jésus, on te dit merci pour ta présence, merci d'être avec nous, merci. Merci de nous rencontrer, de nous attendre, de marcher à notre pas, de nous donner des points d'eau dans notre marche. Merci Seigneur de rafraîchir nos âmes. Merci pour ta bonté que nous oublions si souvent. Merci pour ta fidélité qui me rappelle que même quand je suis infidèle, tu es fidèle. Seigneur, nous sommes riches ce matin, riches de toi, riches de ta présence, riches de ta grâce. Riche du trésor qui est ta présence qui nous accompagne. Que ton nom soit béni. Amen, amen et amen. Que Dieu soit béni. Amen. Vous pouvez prendre place. Vous avez le droit d'être béni. Hein. Dis à la personne à côté de toi, être béni n'est pas un péché. Tu peux lui répondre, être joyeux, ce n'est pas un péché non plus. On va en parler un peu dans les semaines à venir, mais je crois que l'ennemi a distillé dans l'esprit de l'Église cette pensée que d'être trop bien, c'est un problème. En fait, si tu es trop bien, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. J'aimerais te dire de la part du Seigneur ce matin, tu peux être bien et aller bien. Ça va. Être joyeux, c'est pas un problème. Et comment est-ce que Dieu veut nous bénir ? En fait, pour tous les enfants, je vais vous donner une image. Quand vous allez dans un supermarché et que vous voulez quelque chose et que vous rendez fous vos parents, eh bien, il faut faire pareil avec Dieu, en fait. Tu veux quelque chose, dis Seigneur, je le veux. Bon, ce n'est pas la PlayStation 5 que tu veux, hein, on est d'accord. C'est quelque chose qui vient de Dieu. Mais Dieu veut bénir les enfants ce matin. Depuis tôt ce matin, je sentais vraiment qu'il y avait quelque chose, mais je ne savais pas comment ça allait se manifester. Ouais, on a le droit d'être content, d'être béni. Je demandais au Seigneur ce matin, je dis, qui sommes-nous ? En fait, qui sommes-nous ? Qui je suis, moi, à venir là vous parler de la part de Dieu ? Qui je suis ? Et qui on est ? En fait, ce matin, ça me fait sourire parce qu'on en discutait un peu avec Romaric. On s'est dit, est-ce qu'on aura assez de place ? Parce qu'on savait qu'avec le culte samedi, il y en avait qui allaient venir de Toulon pour nous encourager ici. Puis, dès que les choses changent, ça crée des incertitudes partout. Alors, des fois, il y a des endroits, il y a moins de monde. Des fois, il y en a plus. Je disais, Seigneur, mais qu'est-ce qui on est ce matin ? Qui on est pour être là ? Qui est-ce que vous êtes, vous, là ? Qui c'est qui vous a amené ici ? Qu'est-ce qui fait qu'on est là ensemble ? Qu'est-ce qui fait que moi, il y a 3 semaines, quand je me suis rappelé que j'étais mis sur le planning de prédication, je dis, Seigneur, c'est quoi que je dois prier ? Dieu me donne ce message. Et puis, ça tombe que c'est la Pentecôte. C'est quand même pas mal de parler du feu quand c'est la Pentecôte, au final, hein, Romaric ? Parce qu'on n'avait pas trop planifié cette histoire. D'ailleurs, je pense qu'à Toulon, c'était pas planifié du coup. Mais pour dire, qu'est-ce qui s'est passé ? Qui on est nous ? Et en fait, j'avais vraiment cette pensée. Je crois, moi, que le monde naturel est régi beaucoup par le monde spirituel. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et qu'il y a plein de choses qui se passent autour de nous dont on n'est pas conscient. Mais et notamment, notre être spirituel qui a soif de Dieu. Et je crois ce matin que si vous êtes là et si je suis là, c'est parce que tu as besoin d'être rafraîchi. Dis à la personne à côté de toi, tu n'es peut-être pas convaincu, mais ton homme spirituel, ta femme spirituelle a soif. Tu peux lui dire. Tu peux dire homme spirituel, c'est un homme. Hein, et femme, c'est une femme, parce que sinon c'est un peu ambigu l'histoire. Mais je crois qu'on doit réaliser que, par exemple, David va dire dans les psaumes, mon cœur dit de ta part, cherche ma face. Et je crois qu'à des moments donnés, on n'en a pas conscience, mais c'est notre homme spirituel qui est calibré, connecté au Saint-Esprit et qui est attiré par Dieu. Donc si on est là ce matin, c'est pas simplement parce qu'on est des gens bien, même si vous êtes des gens bien, mais si on est là, je crois, c'est parce que Dieu veut nous rencontrer. Et je disais à Fabien, quand tu prêches un message comme ça, tu sais même pas si tu dois prêcher. Parce qu'en vérité, qui sait qui sait pas que Dieu veut le remplir du Saint-Esprit ? Si t'es chrétien depuis au moins 4 minutes, t'as plus ou moins compris ça. Je crois que le problème qu'on a souvent, c'est que on en a perdu la conscience ou on a laissé notre découragement ou notre manque de soif éteindre ça. On croit en fait, tu sais que quand tu crois que tu n'as pas soif, en réalité, ton être spirituel, il continue d'avoir soif. Parce que tu as besoin de Dieu. Les non-croyants, ils ont besoin de Dieu. Pourquoi est-ce que les non-croyants, ils courent dans les salons de la voyance, dans tous les trucs, les trucs ésotériques ? Pourquoi ils font ça ? Parce que la Bible dit que dans le cœur de l'homme, Dieu a mis la pensée de l'éternité. Parce que tu es attiré par Dieu. Sauf que des fois, tu perds de vue la voie et quand tu es à l'ouest, parce que ça vous arrive, tu dis lui, ça t'arrive à toi aussi. Tu peux lui répondre, toi plus que moi. Quand on est à l'ouest, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est juste que on ne cherche plus au bon endroit où boire. On boit à d'autres sources, plus les bonnes. Et je crois que pour nous, on doit juste ce matin se réaligner à cette pensée que Dieu veut nous donner à boire et que ce soit notre quête commune. Vous savez, la Bible dit, si deux s'accordent sur cette terre pour demander une chose quelconque, Jésus a dit qu'il nous l'a donnée. Alors si tu me crois pas à moi, crois au moins Jésus. Si deux s'accordent pour demander une chose, je leur donnerai. On va parler de la Pentecôte ce matin dans le contexte de la naissance de l'Église. On est à Brignoles où on est en train de travailler à cette implantation d'Église, donc je crois que ça a beaucoup de sens. Mais quel est le contexte de la Pentecôte? La Pentecôte, c'est juste l'histoire d'hommes et de femmes qui vont se retrouver accordés pour demander quelque chose à Dieu. Ils ont vécu ce que Jésus avait annoncé. Si tu demandes une chose quelconque, si tu t'accordes, tu la reçois. Maintenant, ce qui est étonnant, c'est qu'il a fallu qu'ils soient tous dans la galère pour être unis. Parce que quand on va bien, souvent, on se désunit. Par contre, si on pleure tous, là, on a de la ferveur pour être consolés ensemble. Et je disais au Seigneur, je dis, Seigneur, mais est-ce qu'il faut qu'on soit tous perdus dans le désert pour dire on a tous soif? J'espère et je prie ce matin qu'on puisse s'aligner et s'accorder ensemble. La Bible dit pas de s'aligner au cœur de Dieu, la Bible dit de s'accorder ensemble, d'être d'accord ensemble. C'est quoi? C'est de dire on a soif ensemble. J'ai soif de plus de Dieu avec toi. Mon frère, ma sœur, je sais pas où tu en es, mais je prie une chose pour nous ce matin, c'est qu'il n'y ait personne qui ressort de ce lieu sans une goutte de sa présence. Parce que la Bible dit qu'à la Pentecôte, ils ont tous reçu, tous. Chacun a reçu sa portion. Il n'y a pas eu un ou deux qui ont été mis de côté, un ou deux qui avaient le cœur trop dur ou qui étaient trop désespérés ou pour lui, ou Dieu passe à côté. Nous, on pense parfois que le Seigneur se balade dans les rangs et il passe à côté. Oups là, lui, non? Ah, lui, oui. Ah, mon chouchou. C'est pas comme ça que ça se passe. Des fois, Dieu vous bénit même quand vous n'êtes pas son chouchou. La vérité, combien de fois Dieu nous a bénis alors qu'on ne le méritait pas du tout, du tout, du tout? Combien de fois t'as ouvert ta Bible et Dieu t'a parlé dans un moment où tu n'étais pas en communion avec Dieu? Et combien de fois tu étais en communion avec Dieu, tu as cherché la voix de Dieu et tu l'as pas entendu? C'est Dieu ça. C'est parce que quand tu es dans la galère, tu as plus de pugnacité que quand ça va bien. C'est pas très compliqué. Quand c'est simple, on est tous faits comme ça, on cherche moins Dieu. Alors Jésus a dit aux disciples, vous allez recevoir le Saint-Esprit, vous allez être mes témoins partout, Judée, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Vous allez rester à Samarie, vous allez attendre, vous allez prier. Ça c'est bon. Mais Jésus leur avait pas dit une chose, pour que vous soyez d'accord avec cette promesse et surtout que vous alliez la chercher, je vais vous mettre dans la galère. Je vais vous mettre dans la persécution, dans la difficulté. Nous, on pense toujours que c'est dans les meilleures dispositions que la bénédiction arrive. Ben non, vous allez voir pourquoi. J'aimerais juste commencer ce message en nous rappelant une chose, ce que l'Église n'est pas. T'as besoin de te rappeler ce que l'Église n'est pas pour savoir ce que l'Église est. Alors, on va commencer. L'Église n'est pas le fruit d'une bonne idée humaine ou d'une stratégie humaine. C'est pas Jésus qui a fait une espèce de réunion, de comité, de direction avec les disciples pour se dire c'est quoi la bonne idée pour que la parole se propage. Ah, on va créer une église. Les amis, si j'étais Dieu, j'aurais jamais créé l'église. L'église n'a ni queue ni tête. L'église, c'est des gens qui viennent, qui donnent leur offrande pour servir. Ça existe, ça? Parce que normalement, tu travailles pour qu'on te donne de l'argent, pas l'inverse. Donc déjà le plan, je suis pas sûr, hein. Mais l'Église n'est pas le fruit d'une stratégie humaine. L'Église, ce n'est pas le désir d'avoir du poids dans la société. On cherche pas à être reconnu. Qu'importe qu'on soit reconnu ou pas. Si on est reconnu, gloire à Dieu. Si on n'est pas reconnu, gloire à Dieu. De toute façon, je vous annonce, et c'est une prophétie certaine qui est écrite dans vos Bibles, un jour nous ne serons plus reconnus. C'est pas maintenant, ça arrivera. Un autre point, l'Église, ce n'est pas le désir de se rassembler pour vivre nos petits trucs entre nous. Quelqu'un m'a dit un jour, j'aime me retrouver avec mes frères et sœurs parce qu'on parle que de Dieu. J'aime moi aussi cette pensée, mais en vérité, c'est un grand piège. Parce que si on aime juste se retrouver ensemble pour parler que de Dieu, que de notre petit culte et notre petite réunion, on perd de vue la vision. Donc l'église, ce n'est pas que ça. L'église, ce n'est pas juste quatre murs qui nous coupent du monde. Je bénis Dieu. Les amis, si vous saviez comme je bénis Dieu en ce moment pour tous les membres de notre église, que l'on soit à Toulon, que l'on soit à Brignoles aujourd'hui, je bénis Dieu qui en ce moment est en train de faire tomber nos murs. Ça, si c'est une certitude, c'est que Dieu fait tomber nos murs. Si tu l'as pas compris, parce que nous, des fois, quand les murs tombent, on se dit « Oh, on n'est plus chez nous, pauvre de nous. » Mais Dieu dit « C'est une bonne nouvelle. » Parce que du coup, tu n'es plus limité à des murs. Ce matin, nous sommes l'église dans l'hôtel Ibis. Amen. C'est-à-dire qu'il y a autant de puissance, autant d'onction et de possibilités à l'hôtel Ibis avec les gens qui prennent le goûter à côté. Eux, ils croient qu'on est... ils se disent « Qu'est-ce qui se passe là-dedans ?» Mais c'est l'église qui se rassemble. On pourrait être à la plage, on pourrait être n'importe où. On est l'église. L'église, ce n'est pas le désir des premiers croyants de concurrencer la religion juive. Les amis, on n'implante pas des églises pour concurrencer des églises. Si on fait ça, on n'a rien compris. C'est la raison pour laquelle, et tous ceux qui viennent ici à Brignoles, vous l'avez noté, en début de chaque réunion, on prie pour toutes les églises de la ville. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas meilleur. On n'a pas un plus grand mandat, on n'a pas plus d'onction. On est juste des hommes et des femmes qui faisons ce que Dieu leur demande. Point. Je termine par là. L'église n'est pas un lieu de pratiques religieuses et répétitives. Si c'est ça, on est les plus tristes des hommes. C'est bien de dormir le dimanche matin. Si c'est pour aller dans un endroit, faire les mêmes trucs que la semaine d'avant, entendre les mêmes choses, bah, tu y vas qu'une fois par mois, hein, ou qu'une fois par an. Non, l'église, ça ne doit pas être un endroit de choses répétitives. Ce n'est pas parce qu'il y a une forme qui peut avoir des similitudes que Dieu agit de la même manière. Tu manges tous les jours, mais tu ne manges pas la même chose. J'espère pour toi. D'accord. L'église, ce n'est pas des brocolis matin, midi et soir. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Il y en a un qui est d'accord avec moi. Que Dieu te bénisse si tu es vegan, hein, on t'aime aussi. Juste vous rappeler comment l'Église est née. On va lire ensemble ce verset dans Matthieu chapitre 16, versets 18 et 19. Jésus a dit à Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. On a ici, là, la première mention de l'Église. Notre problème à nous, c'est que quand on prononce le mot « Église », on pense à toutes sortes de choses. On pense à un bâtiment, on pense à Romaric qui prêche, on pense à un groupe de louanges, on pense à la boîte d'offrandes. On a déjà plein de préconçus dans nos têtes. Mais le jour où Jésus arrive et dit aux disciples, alors que les disciples sont assemblés et que Jésus dit je vais bâtir mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle, quand il prononce le mot église, les disciples ne peuvent pas savoir de quoi il parle parce qu'ils ne l'ont jamais vu. Et le problème, c'est que nous avons tellement vu qu'on manufacture ce que ça va être. Je prie que Dieu nous aide à voir selon lui, qu'on puisse avoir une vision qui ne ressemble pas simplement à ce qu'on nous a appris ou à ce qu'on a déjà vu. Je veux voir ce que Dieu voit. Et si l'Église, et si Dieu avait décidé de faire grève avec l'Église qui est trop cadrée? Si Dieu a décidé, j'y vais plus. Est-ce qu'on va continuer à y aller? Moi, je vais là où Dieu va. Hein. Donc, on doit laisser le Saint-Esprit dessiner les choses en nous à la manière de Dieu, en cohérence avec la parole de Dieu. Mais c'est tellement, tellement fondamental. Le mot « ecclésia » que Jésus utilise, il est très intéressant, parce que donc c'est le mot qu'a donné « église ». Mais lorsque Jésus dit aux disciples « vous serez l'ecclésia, je vais bâtir mon ecclésia », eh bien les disciples, ils ont qu'une idée en tête, ils ne peuvent avoir qu'une idée en tête, c'est que l'ecclésia à l'époque, c'était une assemblée du peuple. En fait, c'était une assemblée, c'est les Grecs qui ont institué ça, qui décidaient quatre choses dans la société, quatre choses. Elles décidaient des lois, elles décidaient du système, de la répartition financière, de la paix et de la guerre. Quatre prérogatives. Donc quand Jésus arrive et qu'il dit tout ça à Pierre, Pierre, il a rien compris du tout. Quand Jésus lui dit, tu es Pierre, sur cette pierre, je vais bâtir mon église, nanana, Pierre a rien compris. La seule chose qu'il a compris, c'est qu'il y avait quelque chose qui allait naître, et que cette chose qui allait naître allait faire quatre choses. Elle allait édicter des lois, elle allait distribuer des dimensions financières, elle allait déclarer la paix, et elle allait déclarer la guerre. C'est pour ça que Jésus lui dit, ce que tu lis dans les cieux sera lié sur la terre, etc. Et donc on voit, nous on est là avec tous nos présupposés, nos pensées, notre manière de voir, mais les disciples, ils ont pris une information brute. Jésus a fait exprès de leur mettre aucun détail de forme. Est-ce que vous avez remarqué que dans vos Bibles, il n'y a aucun verset qui nous dit comment on fait l'Église? Il y a marqué comment on se comporte dans l'Église. Il y a marqué toutes les relations humaines entre frères et sœurs. Il y a marqué que, par exemple, dans Actes chapitre 4, la dimension d'importance de la parole qui est prêchée, la dimension d'adoration, de fraction du pain, de persévérance dans la prière, ça c'est écrit, mais il n'y a aucun endroit où il est écrit « voici la forme que doit avoir l'Église le dimanche de 10 à 12 ». Des fois, on est tellement sur le créneau que si elle passe le samedi soir, on est perdu. Dieu peut-il me bénir le samedi soir ? Jamais de forme, juste des principes. Donc les disciples, lorsqu'ils reçoivent cette vérité, ils n'ont aucune image, aucune idée, mais ils savent une chose. C'est que ce que Jésus va faire émerger, ce sont des croyants qui vont se rassembler comme le peuple grec faisait et qu'ils allaient commencer à édicter des lois. C'est quoi édicter des lois ? C'est que l'Église est là pour déclarer ce que Dieu veut faire. Pas juste au monde. Mon but, frères et sœurs, je vais vous le dire ce matin, ce n'est pas que notre président m'écoute. C'est la raison pour laquelle j'appartiens à aucun parti politique. Je m'en fiche complètement. Je vote aux élections. Mais la politique, la solution ne sera jamais là-dedans. L'Église est là pour édicter des lois. C'est quoi édicter des lois ? C'est pas aller prendre les gens et leur dire « voilà comment tu dois penser ». Édicter des lois, c'est spirituel. C'est à nous d'édicter les principes. On est placé dans des villes, on est placé dans des quartiers. C'est nous qui devons édicter les principes spirituels qui régissent les choses. Comment tu édictes ? Par la prière, par la déclaration. C'est spirituel. Le premier mandat, c'est les lois. Je ne laisserai pas l'ennemi fixer les lois qui régissent ma famille. Non, ni les lois qui régissent ma vie spirituelle avec Dieu. Les lois de l'ennemi, on les connaît déjà, c'est s'éloigner de Dieu. Donc, édicter des lois. Deuxièmement, la dimension financière. Moi, je crois. Je ne crois pas à l'évangile de prospérité qui dit « plus tu donnes, plus Dieu te bénit ». Mais je crois que le juste ne mendiera pas son pain. C'est écrit dans la parole de Dieu. C'est écrit dans la parole de Dieu. On a la foi pour croire que Dieu peut renverser une montagne, mais pas pour qu'il remplisse mon frigo. Donc, si tu n'as pas la foi pour qu'il remplisse ton frigo, tu n'auras pas la foi pour la montagne. Hein. On est d'accord. Donc, il y a cette dimension aussi de puiser dans les richesses du ciel qui se manifestent sur la terre. Non pas pour qu'on soit ultra riche, mais que Dieu nous donne de vivre cette vie en prospérant parce que nous sommes à son image. Dis à la personne à côté de toi, tu es fait à son image. On doit, frères et sœurs, on doit se rappeler cette vérité. C'est quoi être fait à l'image de Dieu ? C'est pas avoir deux jambes, deux bras et une tête. Tu as remarqué qu'on a tous une tête différente ? Gloire à Dieu d'ailleurs. Hein. L'angoissé et tout. Bref, ouais, je sors cette pensée de ma tête. Mais la vérité, c'est qu'on n'est pas fait pareil. Pourquoi ? Parce que Dieu est différent. Dieu n'est jamais pareil. Il est en mouvement, la Bible dit. Il est en mouvement, trois en un. Mais tout ça pour dire quoi ? C'est que ce n'est pas notre ce que nous sommes qui reflète Dieu. On est fait à l'image de Dieu. Dieu, des fois, il doit nous regarder, il nous dit « Oh punaise, pauvre de nous, il n'est pas à mon image. » Quand on est là, notre vie est misérable, quand on est piégé par les soucis, qu'on refuse de croire que Dieu veut nous donner, eh bien, quand on est dans cet état, on n'est plus à son image. On est à l'image de mon incrédulité. Je suis à l'image des limites que je me suis posées. Donc, premièrement, édicter des lois. Deuxièmement, toute la dimension financière. Troisièmement, déclarer la paix et la guerre. C'est l'Église qui déclare la paix et la guerre. Dans le monde spirituel, il y a une guerre tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais la Bible est claire. L'ennemi est déjà vaincu. Il est déjà vaincu. Donc c'est à nous de manifester la guerre lorsqu'il fait trop, on va dire, lorsqu'il nous, il est trop présent ou trop provocant, et déclarer la paix lorsqu'il faut la paix. Tu ne peux pas grandir constamment dans la guerre. Des fois, on en parle ensemble entre ministères, mais moi, par exemple, une des choses pendant longtemps que je ne comprenais pas, c'est que je peux apprendre à me cacher sous les ailes du Tout-Puissant. C'est écrit dans nos Bibles. Donc, il n'y a pas écrit que c'est Dieu qui te prend et qui te cache. C'est pas écrit ça. Il n'y a pas écrit « L'ombre du Tout-Puissant m'attrape et me cache ». David dit qu'il se cache à l'ombre du Tout-Puissant. Il repose à l'ombre du Tout-Puissant. Donc, on doit apprendre à se reposer. Dis à la personne à côté de toi, t'as l'air fatigué. Apprends à te reposer. Combien savent que le repos, ce n'est pas le sommeil ? Tu peux faire une magnifique nuit et être fatigué. C'est spirituel, c'est moral, c'est intérieur la fatigue. Et on doit apprendre à se reposer. Je refuse que je me repose seulement quand l'ennemi en a marre de m'attaquer. C'est moi qui dis quand je me repose. Je suis dans un combat, je fais la guerre. Le problème des croyants souvent, c'est que soit il y a ceux qui font la guerre, la guerre, la guerre, la guerre. Combat spirituel à mort, à mort, à mort. Et il y a ceux qui ne sont même pas au courant que ça existe. C'est vrai, il y a ceux qui prient jamais, 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 jamais. Parce que si tu pries, c'est déjà trop à table. Et t'as ceux qui prient à outrance et qui vivent plus. C'est pas ça la vie chrétienne. L'apôtre Paul, par exemple, nous dit de prier sans cesse. Mais comment tu fais cette affaire de prier sans cesse ? Tu parles en langue tout le temps ? Et du coup, quand ton fils t'interrompt, tu pries plus sans cesse. Donc tu pêches, c'est ça ? Ben non. C'est un état d'esprit, c'est spirituel. On est d'accord ? Donc ce qui est important, c'est de comprendre que je veux avoir une vie à l'image de Dieu. Je suis créé à son image. Et la Pentecôte, qu'est-ce que c'est ? C'est Dieu qui dit, à partir de maintenant, je vais faire naître une église à mon image. Elle va être mon reflet. Et donc, j'aime ce texte-là qu'on a lu ensemble parce que dans Matthieu, lorsque Jésus dépeint l'église à Pierre, lorsqu'il la dépeint aux disciples, ils n'ont aucune idée. Par contre, ils comprennent la substance de l'église. Ils comprennent les principes qui vont la régir. Et je prie pour nous ce matin qu'on puisse comprendre, non pas la forme, qu'importe la forme. Si le pasteur Romaric veut venir habiller tout en rose dimanche prochain, ce qui est fort possible, surtout que j'ai dit ça, donc ça va l'activer et tout, eh bien, ça ne doit pas te couper ta communion avec Dieu. Pourquoi ? Parce que si ça te coupe ta communion avec Dieu, ça veut dire que c'est ça ta communion avec Dieu. C'est son vêtement. Quand il est beau, ah ! S'il est moins beau, oh ! Oh là là ! Tout lui va. Première chose que je partage avec vous, tout a commencé par le feu. L'église est née par le feu de l'esprit. On est ici à Brignoles, on est à Toulon, on sera là où Dieu nous amènera, mais il faut que jamais qu'on oublie une chose, c'est que tout commence par le feu de l'esprit. Avant ça, tu n'es rien. Tu es juste une histoire d'être humain, tu es un club de bridge, tu es ce que tu veux, mais tu n'es pas une église. Tout commence par le feu. Qu'est-ce qui fait de toi un chrétien et un disciple ? Qu'est-ce qui fait de toi quelqu'un qui a des valeurs morales et quelqu'un qui marche avec Dieu ? C'est le feu. C'est tout. Ce n'est pas juste dans le fait d'avoir des grands maîtres. C'est d'avoir l'Esprit de Dieu en toi. Parce que la Bible est claire, elle dit que l'Esprit te conduit dans toute la vérité. Attention, ça ne veut pas dire que tu dois refuser tout des hommes. Ça, c'est l'orgueil caché dans la spiritualité. Mais la réalité, c'est que l'Esprit est important parce que c'est lui qui engendre la naissance. Partout où l'Esprit est en mouvement, la vie est engendrée. Genèse chapitre 1er, l'Esprit de Dieu était en mouvement à la surface des eaux et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Tout commence avec l'Esprit en mouvement. S'il n'y a pas l'esprit en mouvement, l'église n'existe pas. S'il n'y a pas l'esprit en mouvement dans ta vie, le croyant que tu es n'existe pas. S'il n'y a pas l'esprit en mouvement au milieu de nous ce matin, on est juste une équipe dans un hôtel. On aurait autant de bénédictions de prendre le petit-déj à côté que d'être ensemble. Donc il faut absolument qu'on vive le feu. Je vous rappelle juste ces versets.
Acte 1, chapitre 1, acte 1, verset 1 à 4. On lit des textes que vous connaissez. Le jour de la Pentecôte, ils étaient ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Chacun d'eux. Chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Acte chapitre 1. Acte chapitre 4. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles, des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, moi j'aime ces réunions-là. Ce qui les a unis, ce n'était pas la bonne louange. Ce qui les a unis, c'était qu'ils étaient sous la menace. Vois leur menace. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Acte 1, ils sont remplis du Saint-Esprit. Acte 4, ils sont remplis du Saint-Esprit. La vie chrétienne, c'est une vie où tu es rempli du Saint-Esprit. Ce n'est pas une expérience figée dans le passé. C'est quelque chose que tu dois vivre et revivre et revivre et revivre. C'est pour ça que tu peux dire à la personne à côté de toi, avec beaucoup d'autorité maintenant, tu dois être rempli du Saint-Esprit. Tu peux lui répondre, toi aussi, t'es mieux quand t'es rempli du Saint-Esprit. On est mieux quand on est rempli du Saint-Esprit. Donc juste quelques vérités. L'Église est le fruit du feu de l'Esprit. Je l'ai dit rapidement tout à l'heure, mais on voit dans ce texte-là que la Pentecôte a été le début d'une quête. Ils ont été remplis, mais dans Acte 4, ils sont à nouveau remplis. Et quand tu regardes l'histoire des Actes des Apôtres, ce n'est que des rencontres d'hommes et de femmes avec le feu de Dieu, tout le temps, qui prend des formes différentes, mais c'est des rencontres avec le Saint-Esprit qui se manifestent. Et l'Église est devenue ce jour-là une équipe de femmes et d'hommes qui cherchent à être remplis à nouveau. Je crois qu'il faut qu'on réapprenne à vouloir des choses simples. Franchement, quand tu vas bien, ça c'est une vérité profonde, hein, quand tu vas bien, la vie va mieux. C'est pas vrai? Bon. Mais le problème, c'est que toi, pour que tu sois bien, ce n'est ni connecté à tes finances, ni connecté à ta santé, ni connecté à ton environnement relationnel. Pour que tu sois bien, il faut le feu dans ta vie. Pourquoi? Parce que le feu, c'est pas mon sujet ce matin, mais le feu est une des composantes de l'être humain. Dieu l'a mis dans l'homme. On en parlera un jour, mais Dieu l'a mis dans l'homme. Et quand il manque le feu, il manque un bout de toi. Il manque un bout de toi. Souvent on dit oui, pour que l'homme soit complet, il lui faut une femme. Bon, ça c'est bien. On a tous compris ça. Mais il y a le feu aussi. Parce que tu peux avoir 12 femmes ou 12 maris. S'il n'y a pas le feu en toi, tu as 12 galères. Et 12 galères. D'accord? C'est le feu qui te réaligne, qui te rend bien. Quelle est la différence entre toi découragé et toi encouragé? La différence entre toi découragé, c'est que tu as vécu une journée difficile et tu t'en es rendu compte. La différence avec toi encouragé, c'est que tu as vécu une journée difficile et tu t'en es pas rendu compte. Parce que toutes les journées sont difficiles. Tous les jours, tu prends des coups. Tous les jours. Tous les jours, il y a des oppositions. Tous les jours, il y a des combats. Tous les jours, il y a des démons qui t'agressent. Tous les jours. Mais il y a des jours, tu t'en rends compte et tu dis, oh, c'était dur. Et il y a des jours, tu t'en rends pas compte. Pourquoi? Parce que quand tu es fort spirituellement et que tu prends un coup, tu le sens pas. Quand tu es faible spirituellement, quand tu prends un coup, comme ça, le monde s'écroule. C'est une question de feu. Donc l'Église, c'est le début d'une quête, et je crois qu'il faut qu'on retrouve cette quête simple le matin, quand tu es à la maison, quand on est rassemblé. Vous savez, la Bible nous parle du témoignage. Elle dit que la Bible nous encourage à rendre témoignage, à témoigner. Dieu a dit dans l'Ancien Testament, rappeler sans cesse les souvenirs. Le mot témoignage en hébreu, la racine de ce mot, c'est répétition. C'est littéralement, ça fait référence à un papier carbone. Vous savez qu'on avait avant là, les papiers carbone. Bon, les jeunes n'y voient pas, mais les très vieux y voient. Enfin, les autres, quoi. C'est quoi? C'est le papier, comment? Le papier calque. Papier calque.
Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu déclares ce que Dieu a fait, tu annonces ce que Dieu fera. C'est pour ça que moi je suis toujours étonné qu'on ait peur de dire ce que Dieu a fait. Dire ce que Dieu n'a pas fait, ça on le dit aux autres, pour qu'on fasse une réunion d'intercession avec nous. Ben oui. Mais dire ce que Dieu a fait, c'est important. Parce que quand tu dis ce que Dieu a fait, tu déclares ce que Dieu fera. C'est l'esprit de la prophétie, exactement. C'est le principe prophétique simple, ça. C'est l'esprit de la prophétie. Donc, quand je lis ma Bible et que je lis l'histoire de la Pentecôte, elle n'est pas là pour me rappeler un truc qui s'est passé. Elle est là pour me rappeler un truc que Dieu va faire. Et la Bible, tout ce que tu lis dans la parole, ce n'est pas là juste pour te rappeler des fondements. C'est pour te rappeler ce que Dieu va faire. Parce que tout ce que Dieu fera dans ton futur aura l'image de ce qu'il a fait hier. Mais pas la forme. Ce sera différent dans la forme. Mais le contenu et la substance, ce sera pareil. Donc l'Église, c'est cette détermination. Et je prie qu'on la retrouve, cette détermination. J'aimerais vous emmener 5 minutes qu'on puisse aller 5 minutes dans un magasin de sucrerie, qu'on mette tous les enfants devant et vous verriez ce que c'est la détermination. Vous verriez. À chaque fois que mon fils vient avec moi au magasin, hein, Nathan, là j'ai attiré ton attention, là, tu écoutes. À chaque fois qu'il vient avec moi au magasin, je sais. Je viens avec toi. Ah tiens, parce que derrière, il y a la soif. La soif, sauf que lui, c'est pas du Saint-Esprit. C'est d'autres trucs. Mais il a un but. Il faut qu'on retrouve un but. Pourquoi on est là ce matin? Si tu n'as pas de but, tu n'obtiens rien. Si tu lis ta Bible pour rien, tu n'obtiens rien. Si tu pries pour rien, tu n'obtiens rien. Et de dire à Dieu, je veux être rempli du Saint-Esprit, c'est pas une demande folle. Jésus a dit, si tu es capable de donner du pain à tes enfants méchants comme tu l'es, si tu demandes le Saint-Esprit à Dieu, il te le donne sans mesure. Moi, quand je lis ce texte, je dis quand même, il y avait vraiment des gens méchants. Parce que moi, quand mes enfants ont demandé du pain, j'ai jamais donné un scorpion. D'accord? Et Dieu est tellement bon qu'il nous le donne sans mesure. Le problème, c'est pas un problème de don, c'est un problème de demande. C'est toi qui le demandes pas assez. On en a besoin. J'avance rapidement. Psaume 133, verset 2. Voici, oh qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron. D'ailleurs, tu as vu, la barbe, c'est important. S'il n'y a pas de barbe, il n'y a pas d'huile. Hein. Donc, non, je plaisante. Mais c'est quand même... Non. Qui descend sur les bords du vêtement. Donc, on voit cette dimension ici. En fait, la Pentecôte, c'est la manifestation du psaume 133. Tout ce que Dieu fait s'assoit sur un principe. Dieu n'invente pas des choses comme ça. Hein. Des fois, toi, tu crois que tu es au bénéfice d'une bénédiction accidentelle, mais elle n'est pas accidentelle. C'est que tu as activé un principe de la parole de Dieu. Et il y en a plein. Il y a des non-croyants qui vivent des bénédictions parce que sans s'en rendre compte, ils activent des principes spirituels. Par exemple, quand tu es... La foi, la générosité, toutes ces choses. La Bible dit tu récoltes ce que tu sèmes. Si tu es méchant avec tout le monde, voici la nouvelle, il y a des chances que les gens soient pas super gentils avec toi. Moi, j'ai un voisin, il est gentil avec tout le monde. Gentil, mais vraiment gentil. Tous les jours, son but, c'est de rendre service à des gens. Maintenant, je vais vous dire une chose, la vérité, c'est que sa vie, il n'y a pas un jour où il est seul. Pourquoi? Parce qu'il est gentil. Donc, les gens veulent être avec lui. Maintenant, si tu as le même voisin méchant avec tout le monde, personne ne veut être avec lui. Donc, il y a des principes que tu peux activer et qui vont libérer des bénédictions. Le psaume 133 annonçait dans l'Ancien Testament le principe de comment Dieu fonctionne. Et une des choses, une des dimensions de comment Dieu fonctionne, connectée à la Pentecôte et au Saint-Esprit, c'est qu'il y a quelque chose que Dieu aime quand on est rassemblé. Moi, c'est bizarre parce que je me dis, c'est plus simple quand je suis tout seul. Mais Dieu dit, c'est plus puissant quand ils sont ensemble. Moi, je dis, c'est plus simple quand je suis tout seul. Dieu dit, c'est plus puissant quand ils sont ensemble. Pourtant, quand on est ensemble, là, c'est plus compliqué. À partir du moment où on est deux, il y a les potentiels de la dispute. Hein. Sous seul, c'est plus... Bon, ça arrive, mais... En tout cas, psaume 133, verset 2, J'étudiais les mots, mais je veux pas rentrer dans le détail, mais les mots agréables et doux sont extrêmement forts. Il nous parle de l'endroit parfait, l'endroit du délice. Il y a une dimension de prospérité. Ça veut dire, c'est comme si Dieu disait, lorsqu'ils sont rassemblés ensemble, ça attire ma prospérité. Il y a une dimension de pureté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est comme si le chemin pour revenir à Dieu, lorsqu'on est ensemble, est plus court. Tu peux revenir plus facilement. Il y a une dimension de prière entendue, de puissance dans la prière. Ça, on sait, Jésus a dit si on s'accorde. Mais donc, il y a vraiment cette dimension que quand on est ensemble, il y a quelque chose qui attire Dieu, quelque chose que Dieu libère de manière particulière. Et on l'a vu dans ce psaume 133, c'est littéralement dit, c'est là où l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. C'est l'huile qui coule. La première des choses que Dieu dit, la première image, la première fruit, la première conséquence, c'est là, c'est là où l'huile coule. L'huile coule. Le fruit d'être rassemblé en tant que peuple de Dieu, c'est que l'huile doit couler. Si l'huile ne coule pas, c'est que nous ne sommes pas l'église. C'est pas très compliqué, hein. Vous savez, si tu es autant béni à la fin d'un concert de je sais pas qui, là, moi je connais que des gars plus vieux, mais bref, de Johnny. Si tu es autant béni là, que tu as autant eu de frissons qu'à l'église, c'est que l'église, il y a un problème. Il y a besoin de cette huile qui coule. Et on est l'église si l'huile, elle coule. Dans ce texte-là, ça nous parle d'identité, ça nous parle de positionnement. Vous savez pourquoi on galère à trouver notre place dans l'église? Pourquoi on galère? Parce qu'on manque du Saint-Esprit. Quand il n'y a pas le Saint-Esprit, tu cherches ta place, tu convoites la place d'un autre, tu te dis pourquoi lui est là, pourquoi lui fait ci, pourquoi il fait ça. Quand il est rempli du Saint-Esprit, tu n'as qu'une envie, c'est faire ce que Dieu te dit. Tu t'en fiches. Et tu veux faire ce que Dieu te dit et tu t'alignes au corps. C'est comme l'huile qui coule de la tête sur les vêtements. Si tu es à côté, ça ne coule pas. Il y a tellement de choses qui sont naturelles. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu es vraiment bien en fait. C'est vraiment la meilleure version de toi. Donc, tout commence avec le feu. La deuxième chose que je partage avec vous, j'arrive à la fin, c'est que le deuxième feu qui bâtit l'église, c'est le feu de l'ennemi. Ah, il y a moins d'amen, là. Ah, là, c'était bien au début, mais là, tu déclines, frère. Mais pourtant, c'est dans vos Bibles. Quand Dieu libère son feu, l'ennemi libère son feu. Immédiatement. C'est symétrique. Acte 8, versets 1 à 4. Ce passage que je vais lire pour vous, c'est l'antichambre du premier grand réveil biblique. Le premier grand réveil biblique, c'est Samarie. Toute la ville se convertit. Maintenant, regardez le contexte. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution. Alors déjà, s'il y avait écrit persécution, ce serait dur. Il y a une grande persécution contre l'Église. Tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans la contrée de Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et pleurèrent à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'église, pénétrant dans les maisons, arrachant des hommes et des femmes, les faisait jeter en prison, ceux qui avaient été dispersés, alliés de lieu en pleurant. Non, c'est pas ça qu'il y a écrit. Hein. Allés de lieu en lieu déprimés. Alliés de lieu en lieu en se disant « Où allons-nous nous rassembler ?» Alliés de lieu en lieu en se disant oh, « On a peu de moyens, on n'est qu'une petite bande de chrétiens, qu'allons-nous devenir ?» Alliés de lieu en lieu en faisant des manifestations pour revendiquer leurs droits. Il y a écrit « Ils allaient de lieu en lieu en annonçant la bonne nouvelle. » Parce que pourquoi ? Parce qu'en fait, ils étaient chrétiens. Ce qui sort de toi, c'est ce qui est à l'intérieur. C'est pas très compliqué. Tu te dis pas... Je vais un peu vous provoquer. Tu te dis pas, je dois parler de Dieu. Moi, personnellement, je me dis jamais, je dois dire que j'ai une femme. Je dois dire que j'ai des enfants. Les gens, quand ils me rencontrent, déjà, ils voient que j'ai une femme. Ici. J'allume mon téléphone. Il y a mes enfants. Donc, c'est pas quelque chose que j'oblige. C'est un fruit de ma vie. La vie d'un homme et d'une femme remplie du Saint-Esprit, c'est aussi ça. Si tu deviens sec, eh bien, il y a plus de fruits, en fait, qui sortent de ta vie. C'est pour ça que tu as besoin d'être rempli. Écoute-moi ce matin, je veux vraiment pas mettre aucun poids, parce que moi, des fois, je suis sec. Si je suis là, d'ailleurs, si je prêche sur ça, c'est que je dois être rempli. Mais quand on est frais, tu veux que les gens soient mouillés à côté de toi, va prendre un bain et embrasse-les. Tu veux que les gens brûlent à côté de toi, allume un feu en toi. C'est pas compliqué. Après, tu peux te forcer, je veux brûler. Ça sert à rien. Par contre, si le feu que Dieu te le donne et qu'il est là, il y a quelque chose qui va prendre place. L'église des actes, c'est qui nous montre une chose, c'est que l'ennemi essaiera toujours de consumer ce que Dieu construit. Quand Dieu bâtit, l'ennemi veut détruire ce que Dieu a construit. Et il met toute sa force à lutter contre le dépôt de l'esprit en toi. Pourquoi ? Parce que l'esprit de Dieu, on l'a vu tout à l'heure, il crée, il amène la vie. Luc chapitre 4, l'esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. Vous connaissez ces passages, mais tout commence avec l'esprit du Seigneur est sur moi. Quand l'Esprit du Seigneur est sur toi, tu deviens une arme atomique contre l'ennemi. Parce que le Fils est venu détruire les œuvres du diable, l'Esprit de Dieu détruit les œuvres du diable. Les 9 dons spirituels, les amis, les 9 dons qui sont écrits dans vos Bibles, parole, connaissance, sagesse, guérison, tout ça, nanana. C'est pas des dons que Dieu donne pour qu'à la fin du culte, tu sortes, tu dis « Oh, moi j'ai tous les dons ». C'est pas ça le but. Le but, c'est de détruire les œuvres du diable. Pourquoi ? Parce que quand une parole de connaissance est libérée, le but, c'est de montrer à la personne que Dieu la voit. Quand une parole de sagesse est délivrée, le but, c'est de sortir une personne d'un problème que l'ennemi a mis pour lui donner la clé. Lorsqu'une parole de miracle ou de guérison est délivrée, est libérée, c'est pour que la personne qui est enchaînée dans une maladie ou dans une situation impossible puisse être sortie de là. Lorsque le discernement des esprits se manifeste, c'est pas pour discerner qui c'est qui a un bon caractère. Tu discernes les problèmes spirituels afin d'apporter une solution. Donc, une des choses que l'esprit fait, l'esprit de Dieu a mis un poster au mur. Vous savez, dans les westerns, on voyait ça wanted. Le wanted avec la tête du diable. Il dit, c'est lui que je cherche. Et quand tu es rempli du Saint-Esprit, même si tu sais pas, quelque chose qui prend place en toi, tes prières commencent à changer, tu commences à être un peu audacieux, tu commences à partir à la castagne. Spirituellement. Même si c'est pas ton tempérament. Parce que ce n'est pas connecté à ton tempérament. Tu peux prier tout doucement. Et faire des ravages dans les camps de l'ennemi. Ça n'a rien à voir avec le caractère. C'est spirituel. Et on voit dans ce texte-là que l'ennemi essaie de détruire, toujours de d'éteindre en fait ce que Dieu met en toi. Maintenant, regarde ça. Quand le feu de l'ennemi frappe une vie, nous, le problème, c'est qu'on veut éviter le feu de l'ennemi à tout prix. Seulement, tu pourras pas l'éviter. Dis à la personne à côté de toi, je t'encourage, tu pourras pas l'éviter. Tu peux lui répondre, toi non plus. Super nouvelle. Comme on est tous dans la même galère, on va pouvoir être unis. On va pouvoir s'accorder pour demander une chose, non ? Parce qu'apparemment, c'est que quand ça va mal qu'on arrive à être unis. Quand ça va bien, chacun va qu'à ses occupations. Non, on va tous être attaqués par l'ennemi. C'est la question est quand ? Et peut-être que tu es déjà attaqué, mais tu es tellement endormi que tu ne le sais même plus. Mais une chose est sûre, c'est que l'ennemi va frapper ta vie. Maintenant, regardez ça. Quand l'ennemi frappe ta vie, en fait, quand l'ennemi frappe une vie qui est remplie du feu, le fruit, c'est la multiplication. Quand l'ennemi envoie son feu sur quelqu'un qui est rempli du feu, le fruit, c'est l'accomplissement du plan de Dieu. Le fruit, c'est la promotion spirituelle. Le fruit, c'est la percée. Et la preuve, c'est vos Bibles. Parce que la Bible dit que la Pentecôte s'est manifestée dans un moment où des femmes et des hommes avaient peur pour leur vie. Ils étaient cachés dans une chambre parce qu'on voulait les persécuter. Donc dans un moment où l'ennemi envoie son feu contre l'église, le premier feu contre les premiers croyants, le fruit, c'est quoi ? La Pentecôte. Acte 4, on prend les Pierre et Jean, on les met en prison parce qu'ils ont guéri cet homme à l'entrée du temple. Ils les font fouetter. Donc ça, c'est première persécution. Frères et sœurs, nous, on lit ces histoires rapido. On oublie l'histoire. J'ai imaginé la nouvelle. Romaric et Matthieu sont en prison. Les 3/4 des chrétiens modernes diraient, qu'est-ce qu'ils ont encore fait? Il doit avoir anguille sous roche, ils sont pas clairs, manque d'intégrité. En plus, lui avec ses rastas, il n'y en a plus. Il doit avoir, justement, c'est une raison, il a dû les couper parce qu'il a dû les revendre. Mais eux, qu'est-ce qu'ils font ? Ils prient, mais c'est le premier feu. L'église, elle a quelques jours. Ils n'ont pas les années de vie chrétienne comme beaucoup d'entre nous. Ils sont attaqués par un feu, ils se mettent à prier, les disciples sortent. Quel est le fruit ? Acte 4, deuxième Pentecôte, le bâtiment tremble, ils annoncent la parole de Dieu. La ville de Jérusalem est remplie de la doctrine de Christ. À un tel point que les pharisiens deviennent fous. Acte 4. Et nous on dit merci Seigneur pour la bénédiction. Mais moi j'ai dit merci Seigneur pour le feu de l'ennemi qui multiplie la bénédiction sur ma vie. Vous allez voir, ça marche que dans un cas. Acte 8. On l'a lu ensemble, l'histoire de Saul qui tue, qui fait tuer Étienne, tout ça. Ça, c'est la grande persécution. Imaginez, vous arrivez dimanche matin, voici la nouvelle. Une partie de l'équipe de leadership a été lapidée. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait là? On sombre en dépression. Eux, ils fuient pour leur vie parce qu'ils ne peuvent pas rester. Mais Dieu se sert de ce feu-là. Et les amis, là, on a un feu puissant de l'ennemi. Quand des croyants sont mis à mort, c'est que l'ennemi souffle. Mais dans ce feu-là, le feu de l'ennemi rencontre des croyants remplis du Saint-Esprit. La Bible dit que Étienne, il était plein d'Esprit Saint. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas... Le mot plein, il est hallucinant. C'est-à-dire que tu prends un contenant, vous savez, la qualité de l'eau, c'est que quand tu la verses quelque part, elle prend tout l'espace. Si tu mets des pierres dans une bouteille, il reste toujours des petits endroits. Mais Étienne, lui, dans le contenant qu'il était, il n'y avait plus un espace. Il était plein. La Bible dit la même chose de Philippe. Pareil de Philippe. Et qu'est-ce qui va se passer? Le feu frappe l'église. Elle frappe Philippe, qui est plein du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui se passe, Philippe? Il atterrit à Samarie et il libère le feu qui est en lui. Première chose qu'il fait, il confronte la plus haute autorité spirituelle de la ville, Simon le magicien, gloire à Dieu. Ceux qui sont remplis du Saint-Esprit, même s'ils sont en train de fuir, il y a une traînée de feu qui les suit. Il y a une traînée de feu. Il confronte Simon le magicien. La Bible dit que toute la ville est remplie de Jésus. Les gens se convertissent. Pourquoi? Parce que le feu de l'ennemi est venu frapper un homme en feu. Mais le problème qu'il y a, c'est que le problème, ce n'est pas le feu de l'ennemi. Je veux te le dire. Dis à la personne à côté de toi. Je sais que c'est dur de le dire. Mais le problème, ce n'est pas le feu de l'ennemi. Dis-lui. Dis à la personne à côté de toi. Le problème n'est jamais le feu de l'ennemi. Le problème n'est pas la dureté de ton épreuve. Le problème n'est pas la difficulté de la vie, la galère que tu traverses. Le problème, c'est le manque de feu. Les amis, le problème, c'est le manque de feu. Et vous allez me dire, oui, mais tu sais pas ce que je vis. On va s'arrêter de suite avec ça. Si vous voulez qu'on se raconte les uns les autres ce qu'on vit. Dire, on a tous des deuils, on a tous des souffrances, on a tous des incompréhensions, on a tous des maladies, on a tout ça. Vous savez pourquoi? Parce qu'on est sur la terre. La Bible dit, il pleut sur les justes et les injustes. Voilà, nous les chrétiens, il n'y a que les chrétiens qui se disent, oh, il pleut, oh, je suis mouillé. Je croyais que comme j'étais chrétien, il y avait un parapluie qui me suivait. Non, il pleut, tu es mouillé comme les autres. Parce que tu n'es pas encore au ciel. Tu n'es pas sanctifié ultimement. Mais la différence, c'est le feu que tu portes. On prend un exemple simple. Quand tu prends, je sais pas moi, tu fais un feu et tu prends un chalumeau à côté. Tu envoies la flamme du chalumeau dans le feu. Tu crois que le feu, il dit ouille? Il dit rien. C'est la même nature. Le problème est là, c'est que quand on manque de feu, on se fait brûler par l'ennemi. On se fait même des fois ravager par l'ennemi. Mais quand on porte le feu et que le feu de l'ennemi nous est envoyé, en fait, ça multiplie ce que Dieu nous a donné. Maintenant, regardez ça. Je vais lire un des versets qu'on n'aime pas dans nos bibles. Vraiment, celui-là, je fais une série sur ça. Il n'y aura pas de succès, c'est sûr. Mais on va le lire quand même. Jacques, chapitre 1, verset 3. Si tu veux être encouragé, lis l'épître de Jacques. Jacques, c'est ce fameux pasteur. On appelle ça dans la Bible les épîtres pastorales. Moi, j'aime les épîtres pastorales. Jacques, c'est le gars qui te dit, si tu as un besoin, prie. Ben, quand tu vas pas bien, tu as envie qu'on t'écoute, qu'on passe du temps avec toi, qu'il y ait 12 pasteurs qui fassent une relation d'aide de 6 mois. Jacques, lui, te dit, ben, prie, et ça va aller mieux. Ah bon? Bon. Ça commence. Voilà. Bon, alors, on va lire un passage du fameux apôtre Jacques. Car vous le savez, la mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance. Qui c'est qui a prié, Seigneur, je veux être plus solide spirituellement, je veux aller plus loin avec toi, je veux avoir plus de consistance, tout ça, c'est des mots pour parler d'endurance. Hein. Moi, je détestais l'endurance au collège. Puis ils voulaient tous les ans nous faire l'endurance. Je détestais l'endurance. Mais il faut que votre endurance aille jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire pour que vous parveniez à l'état d'adulte, soyez plein de force, des hommes auxquels il ne manque rien. Ou les amis, attention à vos prières, parce que des fois, Seigneur, on veut être endurant, on veut être solide, on veut marcher avec toi, on veut grandir. Jacques nous dit une chose, ce qui va te faire grandir, c'est la mise à l'épreuve de ta foi. Ça va produire l'endurance. Le mot endurance ici, c'est hypomone. Ça signifie endurance, solidité, constance, fermeté, persévérance. Et il termine ce passage en disant, tu seras un homme à qui ne manquera rien. Waouh. Comment ça se fait que si souvent, la pression nous détruit? Pourquoi? Ce qui détruit un objet quand il est soumis à la pression, c'est qu'il est vide à l'intérieur. Prends une canette de coca. Je prends juste cet exemple. Quand elle est vide, c'est facile à écraser. Quand elle est pleine, elle est sous pression. Quand toi, tu es plein et que l'ennemi force sur toi, il ne te détruit pas. Il te rend solide. Il te donne de la consistance. C'est pour ça que la Pentecôte, ce n'est pas juste une histoire de parler un peu en langue. Ce n'est pas juste une histoire d'être un peu béni. C'est la vie chrétienne. Tu ne peux pas avoir cette arrogance de croire que tu peux être cette fille de Dieu, cette femme de Dieu, sans être rempli du Saint-Esprit. Parce que sinon le feu va te broyer. Si tu n'as pas le feu de l'Esprit, tu ne seras pas conduit dans toute la vérité. Donc tu ne pourras pas vivre tout ce que Dieu veut te donner. Mais en plus de ça, le feu de l'ennemi va te briser. Et c'est comme ça qu'on est un chrétien triste. Et moi je prie. Je prie qu'on ne soit plus des chrétiens tristes. Ce serait cool qu'on soit heureux, qu'on soit joyeux. Oui, il y a la guerre. Il y a la guerre, mais quand je suis fatigué, je déclare la paix. Il y a la guerre, mais l'Esprit de Dieu me remplit et j'ai de la joie et des perspectives. Tu peux être comme Philippe. La Bible dit que seul ravageait l'Église. Il jetait tout le monde en prison. Quand tu lis l'histoire, et je termine par là, lorsque tu lis l'histoire dans le détail, tu te rends compte que les chrétiens perdaient tout. Si Philippe se retrouve à Samarie, c'est parce qu'il a certainement de sa famille, des gens qui ont été tués, morts, mis en prison, qu'importe. Il quitte, il fuit. Mais j'aime l'histoire parce qu'il n'est pas dit qu'il s'est caché en arrivant à Samarie. Vous savez, moi j'aurais dit, je sais pas vous, peut-être pas, mais moi je me serais dit, je vais me faire oublier. Je trouve une cave, un hôtel, 2 étoiles, je me cache à l'intérieur et j'attends que ça passe. Lui non, il parle de Jésus. Comment ça se fait? Eh bien parce que la difficulté de son épreuve n'est pas venue éteindre l'espérance dans sa vie. C'est pour ça que l'épreuve n'est jamais un thermostat. C'est pour ça que la Bible dit, regardez cette folie. Je crois que Paul, c'était fou ce qu'il disait. Paul nous dit, soyez toujours joyeux. Vous êtes d'accord? C'est écrit ça, 1 Thessaloniciens 5. Et Paul dit, je suis constamment dans la tristesse à cause de mes frères dans la chair qui ne sont pas au Seigneur. Alors comment vous êtes à faire? Tu es dans la joie tout le temps et triste tout le temps. Parce que tu peux vivre une situation triste. C'est important, attention, je ne dis pas que vous n'avez pas le droit d'être triste. Tu peux vivre des situations tristes. Mais dans ta situation triste, tu ne perds pas ton espérance. Parce qu'il y a quelque chose qui brûle en toi, qui brille en toi. J'arrête ici. Pendant que je priais ce matin vraiment de manière très très claire, connecté à ce point de l'ennemi qui attaque le feu placé dans des gens, et connecté à l'espérance aussi, on en parlait un peu avec Fabien avant le début de la réunion, mais j'avais vraiment ce fardeau, en tout cas cette pensée de Dieu, qu'en ce moment, vraiment clairement, je vois ça pas mal, je pense qu'il y a plus de femmes qui sont concernées, mais si vous êtes concerné en tant qu'homme, vous avez le droit d'être béni aussi, hein. D'accord? Moi, je ne suis pas Jésus-Christ. Hein. Mais je disais cette chose, c'est que l'ennemi veut détruire tout ce que Dieu construit. Tout. À chaque fois que quelqu'un est rempli du feu, le feu de l'ennemi se lève pour souffler. Comme si l'ennemi voulait tester. Vous savez que l'ennemi teste. Hein. Job, il a été testé. Hein. Parce que l'ennemi a vu, il a dit à lui, il est trop intègre. Ce qui a causé la galère de Job, là, juste une seconde, c'est pas son péché, hein. C'est son intégrité. C'est à cause de son intégrité que l'ennemi a voulu l'attaquer. Donc je veux te mettre tranquille, quand tu pêches à outrance, L'ennemi va pas t'attaquer. Hein. Il a rien à tester. T'es déjà disqualifié. Mais quand tu as ton intégrité, quand tu es rempli du Saint-Esprit, il y a toujours un feu qui se lève. Et une des choses que Dieu me mettait dans mon cœur, en tout cas vraiment de manière très claire, c'est que il y a un feu. Vous savez, il y a toujours des combats, comme je disais, il y a toujours des guerres, toujours des conflits, mais en ce moment, il y a un feu très spécial que l'ennemi a voulu lever. Et il souffle pas mal contre des femmes. Et le but de ce feu-là, c'est d'éteindre le feu de l'esprit dans la vie de plusieurs. Je vois clairement que c'est connecté aussi à l'esprit de prophétie. Je vais essayer d'être très clair. Et au ministère. Quand Dieu te donne un appel, quand Dieu te donne une dimension prophétique, quand Dieu te remplit d'un feu, et je distingue le feu général de l'esprit, mais il y a des moments donnés, Dieu nous donne des choses spécifiques. La Bible dit que les croyants ont tous reçu une langue. En fait, c'est pas langue, hein. Quand tu lis en grec, c'était pas une sorte de langue qui descendait comme ça. C'est des flammes de feu. Donc ils ont tous, mais ce qui est important, c'est de comprendre, c'est qu'ils ont tous reçu une flamme. Donc chacun a sa portion devant Dieu. C'est pas du copier-coller. C'est pas du général. Dieu est pas là avec un jet d'eau, il arrose comme ça. Il te donne une flamme. Et je vois clairement, spirituellement, que il y a des flammes connectées à l'appel de Dieu et connectées aussi à la dimension prophétique. Quand je parle de dimension prophétique, j'ai dit un peu quand je priais pour le petit tout à l'heure, parfois il y a des choses qu'on a en nous, tu peux pas les expliquer. Il y a des personnes qui ont du discernement, ils ont une intuition, du discernement, ils sentent des choses. Ils absorbent des atmosphères. On peut pas mettre de mots dessus, mais vous savez, lorsque Dieu nous a créés dans l'éternité, il nous a façonnés à l'image de ce qu'il voulait qu'on soit. D'accord ? C'est pas quand tu deviens chrétien que tu deviens. Tu étais avant. D'accord ? Donc l'appel de Dieu, il était déjà en toi quand tu te convertis. Les dons, ils étaient déjà distribués dans ta vie. Parce que la Bible dit que les dons et les appels sont irrévocables. Quand Dieu le déclare, ils sont irrévocables. Donc tu les reçois, tu reçois ce feu, mais l'ennemi vient les attaquer. Et ce que je ressentais vraiment, c'est de manière très claire, je pense que c'est depuis un mois environ, il y a vraiment un feu particulier en ce moment qui s'est levé, je le disais, plus spécifiquement contre des femmes qui ont ce profil-là. Des hommes aussi, mais plus des femmes. Et l'ennemi veut éteindre le feu que Dieu a déposé en toi. Et ça entraîne dans ta vie un profond, profond, profond découragement. Parce que c'est comme si le feu de Dieu se vidait et que le feu de l'ennemi prenait trop de place. Et je veux prier pour ces personnes-là. J'aimerais juste qu'on ferme nos yeux, s'il vous plaît. Et après, on va prier pour nous tous ensemble. Mais je m'adresse, j'en vois plusieurs déjà hein, dans l'esprit, mais je ne vais pas venir vous chercher. Hein. Le feu s'est levé contre ce que Dieu a déposé en toi en termes d'appel et surtout en termes d'esprit, de prophétie et toute la dimension prophétique, de sorte que tu ne vois plus. Tu n'avances plus, il y a quelque chose qui s'éteint et ça s'est positionné sur ta vie depuis, je pense, environ un mois, peut-être un peu plus. Mais tu sens en fait que c'est la réalité spirituelle dans laquelle tu es. Et ce matin, je veux prier avec l'Église, je veux prier avec toi pour dire stop. C'est ton cas ce matin simplement là où tu es, alors qu'on ne regarde pas. Tu lèves la main s'il te plaît à ta place, je veux prier avec toi. Ok. Ok, vous pouvez baisser vos mains. Savadi kere malara soko no marime. Oh Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Jésus. Je ne veux pas vous mettre mal à l'aise, mais si vous êtes d'accord, si vous ne le sentez pas, ne le faites pas, mais si vous êtes d'accord, ceux qui ont levé la main, je vous demande de vous mettre debout à votre place. Parce que j'aimerais vraiment qu'on prenne une position. Et que des choses changent. Je déclare dans le nom de Jésus que jamais, 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 c'est l'ennemi qui fixera la température dans ta vie. J'aimerais demander à ceux qui le ressentent ainsi, qui veulent bien le faire avec nous, de pouvoir venir prier pour ceux qui sont debout. Juste restez debout, s'il vous plaît. Vous êtes assis, vous regardez autour de vous, vous regardez qui est debout. Si vous le sentez, vous priez. Femme avec femme et homme avec homme, si c'est possible. Koravala zegeri maramana sokoro maramai. Fala karabara sokoro babababababababababai. Frasa kadia ramana karabara sokoro maramai. Sore veregeri balaravara garabai. Père, je prie dans le nom de Jésus maintenant même. Sokaramana sevoro karimeni aramamai. Que ton feu vienne. Que ton feu vienne. Que ton feu vienne. Farasa kari arabara sedoro babababai. Sore malamara mamamai. Si vous priez pour quelqu'un, simplement priez en langue là où vous êtes pour lui ou pour elle. Que l'esprit puisse intercéder au travers de vous, simplement. Koravara zegoromai. Yeramana sakadabara babababarebebe. Je déclare dans ce lieu que nous mettons un terme à une saison de feu de l'ennemi pour plusieurs. Forasa katiere bala sakaramareme. Kore malarazan de kede berri bababai. Forazade ke rotso koro babababababai. Fere jalara sokoro bababadeke. Frasa tiere bele karabababaribedege. Que ton feu vienne, Seigneur. Je prie pour plus de ton feu maintenant même. Plus de ton feu, plus de ton feu, plus de ton feu. Forasa katiere balarabababababai. Kore barazade kere berri larabababarabara sorebe. E maranze keri arababa ribere kere bebe. Sora fa di karababa le loro sor. Se karababa ribere kere bere bababa le rebe. Je prie pour un dépôt nouveau. Je prie pour une onction fraîche, pour une huile fraîche. Parce que nous sommes rassemblés dans ta maison. Qui va raser de karababa bai. Soro sokoro bababa bai. Kore bele rebebre karabara soro malaye. Fore zati arratse kero bai. Berre zandia ramane, sova la caravai delere carabai, soravane gere bere keria ravai, borre bala sendolo corromana sante kere bababai, fare zorro dodoro barri babai ker, forro socorro babababar, vorre jalara se kere bei. E si toi tu es debout, parce que tu sais que tu es soumis à cette attaque là où tu es, commence à prier avec ceux qui prient pour toi. Il faut que tu libères tes propres mots. Il faut que tu libères cette soif. Il faut que tu libères ce désir de plus. Que ton désir de plus vienne briser le feu que l'ennemi veut mettre. Vienne briser. Tu as été créé pour le feu. Tu as été créé pour brûler. Tu as été créé pour être plein de l'esprit. C'est toi, c'est qui tu es vraiment. Refuse cette version de toi qui est sèche, qui est morte, qui est sans rien. Tu as été créé, designé, préparé pour recevoir son feu. Korabareze korobababai. Faraso koromara sento korobai. Fraso korobababa kerelere barabababai. Forasada kerobababa kereshorobai. Ferro sodoro korobababai. Koramara sande kerodorobababai elere berrebebebe. Forasate kerebabai. Ora mara mara socorro babababarababai. Fora ze corozor. Serro socorro barabai. Ferro zodoro corre mamamamama kelere barabai. Fora sate kerozor. Ferra je gerebei. Nous amenons une contradiction maintenant dans le nom de Jésus. Une contradiction dans le nom de Jésus. Par ton esprit, Seigneur, je déclare que dans ce lieu, des attaques se terminent maintenant même. Je prie pour un esprit vivifié, pour une nouvelle saison, une nouvelle séquence. Korabalaze korobalabaike, voretsikara mandolokor, rasekerebe, forizadia ratsekediarebe, forakantia lamale solo rocheke, vere zondolo makedi barabababai, ora sadakera babababarebebe, ora satia raseke. Merre zandia kara madogorobai. Rosso korobababar. Qu'une vague de ta présence maintenant, qu'une vague de ta présence puisse nous rafraîchir. Que des langues semblables à des langues de feu puissent nous rafraîchir, nous tous. Tu as une portion pour chacun d'entre nous ce matin. Tu as une flamme pour chacun d'entre nous. J'ai soif de recevoir ma flamme. J'ai soif de recevoir ma portion. J'ai soif de sortir de cette Pentecôte, Seigneur, avec un feu nouveau, avec un feu plus grand, avec un feu plus fort. Est-ce qu'on peut tous se lever, s'il vous plaît, là où nous sommes? J'aimerais vous inviter pendant quelques instants à lever les bras là où vous êtes. Je refuse que certains soient bénis et d'autres pas. Je refuse de ne pas recevoir ma portion ce matin. Dieu a une flamme pour chacun d'entre nous. Et quand le feu de l'ennemi va se lever, je déclare qu'il va rencontrer une croyante ou un croyant en feu. Quand le feu de l'ennemi va venir souffler sur ta vie, eh bien, il ne te détruira pas, mais il va t'emmener plus haut, plus loin, plus fort pour Dieu. Je prie, Seigneur, que nous soyons remplis d'une huile fraîche, d'un feu nouveau, pour comprendre la vérité, pour comprendre ton plan et tes projets, pour comprendre ce que tu fais, pour marcher à ta suite, pour libérer ta vie, afin que les dons soient activés sur nos vies, afin que les fruits soient activés dans notre vie. Reçois ta portion, sois comme un enfant qui soupire. Nous recherchons ta présence. Seigneur, nous sommes accordés. Nous nous unissons ensemble pour te demander une chose. Une chose, c'est plus de toi. 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 Un seul cœur pour chercher ta face, pour chercher ta présence, pour que ton feu tombe, que ton feu tombe, que ton feu tombe. Là où tu es, reçois la portion, reçois ta portion, reçois ta portion, reçois ta portion, reçois ta portion.